Bienvenidos a este informativo de Radio France.
This is Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction russe, Denis Strelkov.
Dobry vecher.
Car la sociologue française Karine Clément a été refoulée à la frontière russe. Rosie Collier, de la rédaction en langue anglaise.
Good evening, Philippe.
À propos de la grande grève qui perturbe la France en ce moment. Et Matei Vichniec, de la rédaction roumaine.
Bună seara.
Car une catastrophe écologique est en cours en Roumanie. Bonsoir à vous. Avant cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine, à savoir les 70 ans de l'OTAN, c'est-à-dire de l'alliance militaire qui regroupe les pays signataires du pacte de l'Atlantique Nord. Entre des dissensions exposées au grand jour et des moqueries qui ont piqué au vif Donald Trump, les 29 membres de l'OTAN ont peiné à afficher leur cohésion face aux défis qui émergent trois décennies après la fin de la guerre froide. Vous avez couvert l'événement, Matei, pour la rédaction en langue roumaine. Vous avez rapporté des propos critiques d'Emmanuel Macron qui ont suscité beaucoup de réactions, parfois très irritées.
Oui, parler de la mort cérébrale de l'OTAN, comme l'a fait le président français, ce n'est pas anodin. Si on analyse bien cette expression d'origine médicale, cela veut dire que le corps bouge encore, que toutes les fonctions vitales sont encore saines, sauf le centre du commandement. Lorsque le cerveau se meurt, pour parler à la UNESCO, le corps risque de faire n'importe quoi, même de commettre des mouvements dangereux, de faire des gestes qui vont à l'encontre des intérêts du corps, voire des gestes suicidaires. Voilà l'analyse sémantique de cette expression utilisée par Emmanuel Macron. Et il ne se trompe pas sur certains points. Par exemple, lorsque l'OTAN abandonne ses alliés en Syrie, c'est que vraiment la tête pensante de cette organisation, qui veut défendre parmi d'autres la liberté et la démocratie, ne tourne pas rond.
Denis, à Moscou, est-ce que cette expression, cette position du président français est considérée comme une victoire politique de la Russie ?
Absolument. Il faut rappeler qu'en Europe de l'Ouest, Emmanuel Macron est quasiment le seul président qui a des relations presque amicales avec Vladimir Poutine. Par exemple, il l'a reçu au Fort de Brégançon cet été. Pour Moscou, la logique est très simple. Il est difficile d'avoir de bonnes relations avec Moscou et en même temps ne pas remettre en question la politique de l'OTAN. Il est clair que cette critique de Macron, qui a d'ailleurs traumatisé plusieurs personnes haute placée, y compris Donald Trump, cette critique a montré à Vladimir Poutine que le dialogue constructif entre la France et la Russie, c'est possible, même probable. Et ce qui est paradoxal, le dialogue entre Macron et Poutine, qui ne plaît pas à tous les alliés, peut aider à résoudre plusieurs problèmes au sein de l'OTAN. Par exemple, la Russie a une certaine influence sur la Turquie et ses actions en Syrie ont été vivement critiquées par la France. Et c'est peut-être Moscou qui peut faire en sorte que des événements en Paris n'arrivent plus. Parce que pour le moment, Macron et Erdogan ne s'entendent pas très bien.
Alors vous parliez de Donald Trump, Rosie Collier, les 29 alliés ont trouvé un accord qui permettra au président américain de réduire sa contribution au budget de l'OTAN.
Oui, les États-Unis verront la leur réduire 16,35%. Celle de l'Allemagne portera la sienne au même niveau. Les autres pays membres acceptent de payer davantage, sauf la France. La sienne restera donc à 10%. C'est un sujet qui met président Donald Trump en colère.
That is a very very, very nasty statement to essentially 28, including them, 28 countries.
Pourquoi est-il mécontent?
Président Donald Trump qualifié de très insultant le jugement porté par président Macron sur l'OTAN et a dénoncé le mauvais payeur qui ne contribuait pas assez aux dépenses pour la défense. Trump a signifié son intention de punir le président français dont le jugement critique sur l'OTAN a froissé les alliés. C'est un jugement selon Trump très très méchant à l'adresse à 38 pays. Et pour cet homme, il parle de Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, qui Trump estime a fait un excellent travail.
Donald Trump, avec qui le dialogue a été tendu avec le président français. Et puis, Denis Strelkov, il y a la Russie. Si Emmanuel Macron a proposé de redéfinir les relations avec Moscou, pour le Kremlin, l'OTAN est toujours une menace.
Il faut comprendre une chose. Pour Moscou, la moindre faiblesse de l'OTAN est considérée comme un acquis. Au Kremlin, Occident, on pense que pour l'Alliance Atlantique, la seule raison d'être est d'affaiblir la Russie. C'est une histoire qui dure depuis des années. À chaque fois que Moscou voyait qu'il y a des tensions, bah, les autorités en profitaient. Au moins, c'était le cas pendant la guerre froide. Depuis, les choses ont évolué. Notamment, il y a eu le conseil l'OTAN-Russie qui a été créé, mais il ne s'agit pas de coopération, mais plutôt des tentatives de dialogue. Puis les choses ne tournent pas rond. Il y avait une deuxième guerre de style du Sud, puis l'annexion de la Crimée. Tout cela ne plaît évidemment pas aux alliés. Par contre, l'OTAN veut augmenter son financement. Il a ici le plan d'élargissement. Donc la Russie ne veut pas voir l'OTAN à côté de sa frontière. Et pour que cela n'arrive pas, Moscou va utiliser la moindre occasion. L'annexion de la Crimée est l'exemple le plus flagrant. Selon un expert militaire, Alexandre Goltz, la politique extérieure russe, par exemple l'annexion de la Crimée, reste toujours une menace pour l'OTAN. On l'écoute.
Если есть какая-то скрепа, которая обеспечивает самоидентификацию
нас. Quelle est son analyse?
Alexandre Goltz est sûr, à cause de la politique hostile de la Russie, des pays membres de l'OTAN ne vont pas pour l'instant se tenir l'idée de se rapprocher avec Moscou. L'idée clé de l'alliance, c'est de faire face à Poutine. Puis on voit bien que contexter les politiques de Poutine, c'était une idée qui ne fait pas l'unanimité non plus. Plusieurs chefs d'État essaient d'avoir de bonnes relations avec lui.
Alors Denis, ces dernières années, l'OTAN a accru son soutien à l'Ukraine en raison du conflit avec la Russie. Comment ce sommet de Londres a-t-il été perçu par le gouvernement de Kiev ?
Vu que l'Ukraine n'est pas un pays membre de l'OTAN, Vladimir Zelensky, le président ukrainien, n'a pas participé au sommet. Par contre, son ministre des Affaires étrangères était bien présent dans la capitale du Royaume-Uni. Vadim Pristaïko s'est exprimé dans les marges du sommet et on va écouter son intervention.
Que dit Vadim Pristaïko ?
Vadim Pristaïko est sûr que l'OTAN sous-estime le danger russe et pour Kiev, le rôle de l'OTAN dans la région est crucial. Puis les paroles de M. Pristaïko, ils sont extrêmement critiques vis-à-vis de la Russie. Il dit qu'il ne voit pas les différences entre la Russie et le terrorisme, que Moscou doit être traité comme un ennemi. Bref, ici, il n'est pas du tout d'accord avec Emmanuel Macron pour qui la Russie n'est plus une menace. Mais l'Ukraine pense malgré tout qu'elle peut compter sur le soutien de l'Alliance. La preuve, le secrétaire général de l'OTAN a déjà demandé à Moscou de retirer ses troupes de l'est de l'Ukraine, à voir si la Russie va l'écouter ou pas, surtout que selon Kremlin, il n'y a pas de troupes russes dans le Donbass.
Matéi Vichniak, les pays de l'Europe de l'Est n'ont pas très bien digéré le diagnostic d'Emmanuel Macron concernant, donc vous en parliez tout à l'heure, la mort cérébrale de l'OTAN. Ces pays suivent avec beaucoup d'attention, voire avec une inquiétude certaine, les déclarations françaises concernant la reprise du dialogue avec la Russie.
Oui, il faut déjà comprendre que pour ces pays qui ont subi pendant un demi-siècle d'abord l'occupation soviétique et ensuite le modèle communiste imposé par Moscou, le danger vient toujours de l'Est, de l'ancien grand frère, d'autant plus que la Russie n'a pas adopté après la chute du communisme un vrai régime démocratique et d'autant plus que Poutine incarne un modèle autoritaire. Le fait que la France, par exemple, s'oppose à l'intégration européenne de la Macédoine du Nord et de l'Albanie n'est pas du tout applaudi à l'Est. Et ministre Letton voit dans ses décisions un symptôme, je cite, de la mort cérébrale de l'Union européenne. Pour les pays de l'Europe de l'Est, c'est urgent donc de faire entrer les pays des Balkans autant dans l'Union européenne qu'éventuellement dans l'OTAN.
Encore une chose, Mathilde, le président roumain Klaus Iohannis, qui vient d'être élu pour un mandat de 5 ans, a participé à ce sommet et il a accordé une interview à RFI Roumanie. Qu'a-t-il dit ?
Le président roumain est plutôt optimiste, ou bien il se veut rassurant. Il a précisé, par exemple, que tous les pays membres de l'OTAN ont compris qu'il faut faire un effort financier supplémentaire bientôt, dit Klaus Iohannis. La règle du 2% allouée pour la défense deviendra générale. Écoutons son avis concernant le bilan final de la réunion.
Finalul întâlnirii pot să spun că 1 NATO a îndeplinit 70 de ani.
Alors il dit, comme conclusion finale, je peux dire que l'Alliance Atlantique qui fait ses 70 ans reste unie. Elle reste forte et elle a devant soi un bon avenir. Le président roumain précise aussi que les idées concernant les nouvelles stratégies de l'OTAN que Jens Stoltenberg et son équipe va proposer seront étudiées dès que possible en commun.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les 70 ans de l'Alliance Atlantique. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Toutes les rédactions de RFI ont bien évidemment suivi la grève de ce jeudi en France, y compris, bien sûr, le service en anglais. Rosie Collier, c'était la plus forte mobilisation dans les entreprises et dans les rues depuis plusieurs années, et c'était donc le mouvement le plus fort de la présidence d'Emmanuel Macron. Et vous y étiez. dans cette manif.
Oui, j'étais dans le cottage à Paris pendant plusieurs heures et ce qui est évident, c'est que la plupart des gens sont en colère contre le gouvernement d'Edouard Philippe et au moins 5 personnes me disent que Macron était le président de riches, dont le syndicaliste de la CGT.
1500 euros, 75 euros d'augmentation. On est très très loin de la prise du palais d'hiver. Des propositions, il y en a plein, mais forcément, forcément, elles égratignent à un moment les intérêts d'un patronat qui l'année dernière, pour le CAC 40, a fait 90 milliards de chiffre de bénéfices. Donc des propositions, il y en a, mais forcément, elles ne consistent pas systématiquement à réclamer des travailleurs de la sueur, des sacrifices et des larmes. Ça suffit.
Rosie, que signifie cette référence au palais d'hiver qui
oui,
était mentionné là?
Alors, le palais d'hiver, un projet de Pierre le Grand, c'est le symbole de puissance de l'Empire russe. Lors de la révolution russe en 1917, le prix de palais a été mis en scène par les révolutionnaires qui ont réjoui le coupe de four pour réaliser un film de propagande. Ce film a magnifié les efforts de combattants qui, dans la réalité, n'ont raconté qu'une faible opposition. Ils subissent peu de pertes. Il y a donc, à mon sens, une double allusion dans cette référence au palais d'hiver, celle de la révolte sanglante russe, donc le bolchevique, le communiste, syndicat et le prolétariat, contre le pouvoir capitaliste qui n'est pas l'objet de la manifestation et le procès d'intention qu'elle pourrait faire aux syndicats aujourd'hui, les accusant de manipuler l'opinion en exagérant les conséquences de cette réforme des retraites.
Est-ce que les pays anglo-saxons expriment de la sympathie pour les travailleurs français sur cette question des réformes?
Oui et non. En Angleterre, 19% des retraités sont considérés comme pauvres par le OCDE. Et 21% aux États-Unis. Malheureusement, la pauvreté des personnes âgées dans les pays anglo-saxons est plus élevée qu'ici en France. Vu depuis l'Angleterre, la France possède le système social le plus généreux au monde. Donc, d'une part, les anglo-saxons comprennent que le français veut garder le système de retraite actuel. D'autre part, une certaine partie des Britanniques prend que ce sont eux et les autres pays de l'Union européenne qui financent le déficit du système français. C'est ce déficit que Bruxelles demande à Macron à réduire.
Rosie Collier, de la rédaction en anglais de RFI. Parlons maintenant de ce que la presse roumaine qualifie de scandale et de catastrophe écologique. Il s'agit du déboisement en Roumanie. L'agence France-Presse nous affirme que l'année passée, deux employés de l'Office roumain des forêts ont été tués et que depuis 5 ans, il y a eu presque 200 agents qui ont été agressés. Que se passe-t-il en Roumanie, Matéi?
C'est simple, il y a une mafia qui veut profiter de cette richesse et du fait que l'exploitation du bois n'est pas très bien encadrée par les lois. Déjà quelques chiffres, en Roumanie, les forêts couvrent un tiers du territoire, c'est-à-dire 7 millions d'hectares. La filière bois représente 126 000 emplois déclarés et aussi 3,5 du produit interne brut. Environ la moitié des forêts roumaines appartient à des entités privées. Les experts disent que chaque année, on coupe légalement 20 millions de mètres cubes de coupe d'arbres et illégalement tout autant. Chose confirmée d'ailleurs par le président roumain en personne, écoutons-le. Les données sont, pour ainsi dire, effrayantes, dit donc Klaus Johannes. Sur l'ensemble des arbres coupés, la moitié c'est dans un cadre légal et la moitié d'une manière illégale. Tout cela doit cesser.
Quelles sont les chances pour que cela cesse, d'autant plus que la Roumanie abrite la plus grande surface de forêt vierge d'Europe?
Il faut dire tout d'abord que le trafic du bois est une ressource pour des populations sans autre moyen de subsistance. Par exemple, pour le meurtre de l'un des forestiers, la police a arrêté un adolescent de 17 ans qui volait du bois. Mais plus grave encore, c'est que la moitié des forêts roumaines appartiennent à des entités privées et les propriétaires privés qui ont récupéré leur terrain après la chute du communisme pensent pouvoir faire n'importe quoi avec leurs biens. Et c'est évident, la faute du pouvoir public de ne pas encadrer clairement le secteur, de ne pas obliger les propriétaires de reboiser, de ne pas exiger une transparence totale concernant le commerce avec le bois.
Et puis il y a les multinationales qui opèrent en Roumanie également.
Ce qui a engendré une vraie chaîne de la corruption et aussi des opérations opaques. Je cite ce que l'agence France-Presse transmettait le 18 novembre. Le marché international de l'ameublement et du bricolage consomme l'autre partie de la ressource via l'implantation en Roumanie de plusieurs groupes étrangers, dont le poids lourd autrichien Schweighofer, qui travaille avec des nombreux intermédiaires locaux.
Et les médias étrangers commencent à parler de ce massacre écologique. Il y a eu plusieurs articles dans la presse française, par exemple dans La Croix, et puis la plateforme Netflix qui a diffusé un documentaire sur ce sujet.
Netflix a collaboré avec une organisation non gouvernementale, Agent Green, pour réaliser ce film. Mais l'équipe qui filmait a été agressée, c'est de toute façon ce que cette ONG dit sur Facebook. Ces dernières années, la société civile roumaine s'est beaucoup mobilisée pour défendre les forêts en Roumanie, où il y a encore plus d'un demi-million d'hectares de forêts primaires et séculaires. C'est un poumon de l'Europe et une réserve de biodiversité qui risque de disparaître. Personnellement, je crois que d'une manière ou d'une autre, l'Europe doit se préoccuper de ce poumon vert, même si ce qui se passe en Amazonie, au Brésil, est peut-être plus grave.
Et puis une catastrophe similaire est en train de se passer en Ukraine, qui est un pays voisin de la Roumanie.
Et c'est la même chaîne de montagnes qui traverse la Roumanie qui arrive en Ukraine, qui est visée, d'après les organisations qui ont enquêté en Ukraine. Ce qui se passe en Ukraine est semblable à ce qui se passe en Roumanie.
Il faut donc rester très vigilant, et c'est ce que fait la rédaction roumaine de RFI. Matei Vichniak, merci à vous. La semaine dernière, la sociologue française Karine Clément, qui est connue pour son analyse des mouvements sociaux, a été refoulée à la frontière russe. Les autorités estiment qu'elle représente, je cite, une menace pour la sécurité. Elle voulait participer pourtant tout simplement à une conférence sur les gilets jaunes. Alors, Denis Strelkov, où est le problème pour les autorités russes?
C'est une histoire qui est très parlante de ce qui se passe en Russie aujourd'hui. Les autorités ne veulent plus parler des mouvements sociaux. Et même des gilets jaunes, qui ont été à l'époque le sujet préféré des discussions en Russie. Karine Clément a voulu comparer les gilets jaunes avec des manifestants en Russie. Et apparemment, ça n'a pas plu aux autorités. Ma collègue Arina Makarova a rencontré Karine Clément à Paris. Et voici comment la chercheuse explique cette décision.
Alors
c'est une Française qui s'exprime en russe, donc on a besoin de votre résumé.
Elle dit que peut-être au Kremlin on ressent qu'il y a un truc qui cloche dans les sociétés russes, qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, puis il n'exclut pas non plus qu'il y a un autre scénario, est-ce que c'était peut-être juste un règlement de compte de la part de quelqu'un au pouvoir, mais il est difficile de dire qui est derrière cette interdiction. Il faut rappeler aussi que Karine Clément a vécu pendant plus de 20 ans en Russie, sa fille a la nationalité russe. Et malgré tout ça, elle ne pourrait pas rentrer en Russie pendant 10 ans.
Denis, le mouvement des Gilets jaunes a été un événement relayé, commenté en Russie. Alors pourquoi cette conférence à laquelle devait participer la sociologue française a suscité une telle réaction?
Il n'y a pas de réponse officielle, mais je pense que c'est le sujet de son intervention qui a gêné les autorités. Sociologue de sociologie de la protestation mondiale, qu'est-ce qui pousse les gens à sortir dans la rue? Voici comment elle était formulée. Nova Gazeta a publié le compte-rendu de son intervention à cette conférence, intervention qui n'a pas eu lieu. Il y parle d'une politique nouvelle qui est créée au sein des milieux populaires, et cette politique, selon elle, vise surtout à réinventer le système. Et surtout, Karine Clément dit que les manifestants en Russie et en France ont beaucoup en commun. Le mouvement des Gilets jaunes ressemble à tout ce que j'ai pu voir et attendre en Russie, surtout dans les couches précaires de la société. Donc Karine Clément cite même des interviews avec des Gilets jaunes et ça ressemble beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour que la Russie ait autant peur de cette chercheuse française et de ce qu'elle dit, ce qu'elle pense?
La France est en pleine grève contre la réforme de la retraite. Et il y a 2 ans, en Russie, Vladimir Poutine a également signé une réforme de la retraite. L'âge de départ a été augmenté. Maintenant, les Russes vont devoir travailler 5 ans de plus. Mais à Moscou, les manifestants ont été beaucoup moins nombreux.
Merci Denis Strelkov de la rédaction russe, également à Rosie Collier de la rédaction en anglais et Matei Vichniak de la rédaction roumaine. Voilà, c'était Accent du Monde. Merci d'avoir été une fois de plus au rendez-vous. À bientôt.